ce qui pouvait arriver, ce qui risquait d'arriver, ce qui avait toute chance d'arriver avec moi, c'est que j'ai oublié d'imprimer mon texte de cet après-midi. C'est pas la première fois que cela m'arrive. Bon, alors nous allons essayer de survivre sans. Ce dont je dois vous parler, c'est de la foi en la résurrection de Jésus-Christ, levier et socle de l'espérance chrétienne. J'ai deux orientations de départ. La première, c'est de vous poser la question dans le symbole des apôtres. Donc, expression du résumé de la foi de l'Église occidentale. Qu'est-ce qui a part avec l'espérance? Dans les énoncés du symbole, qu'est-ce qui vous paraît en relation immédiate avec l'espérance? Est-ce que la résurrection des morts, c'est de l'ordre de... Oui, c'est de l'ordre de... Mais si vous nous donnez dans l'ordre, ce serait peut-être mieux. Dans le premier article, ce n'est pas de l'ordre de l'espérance. Dans le second, concernant le Christ, ce n'est pas une espérance. C'est un événement. C'est déclaratif. Bon, peut-être que quand on passe au futur, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Ça peut être une peur, ça peut être une espérance. Bon. Et quand on passe au troisième article, celui de l'esprit, nous avons l'énoncé. Il y a la vie éternelle, la rémission des péchés, la résurrection de la chair, la vie éternelle. Voilà, la foi, c'est pas l'espérance. Le symbole des apôtres, on l'appelle aussi traditionnellement la foi. Bon. Mais à l'intérieur de la foi, nous avons certains éléments qui nous paraissent en relation immédiate, directe, avec l'espérance. Il n'y a pas de séparation absolue entre la foi et l'espérance, mais vous êtes bien d'accord que la foi n'est pas l'espérance. Bon. De même que l'amour n'est pas la foi, n'est pas l'espérance. L'apôtre Paul, il a réussi un coup génial en nous créant ses vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, parce que c'est un bon moyen d'entrer dans la compréhension du mystère de Dieu. Alors, ça, c'est la première remarque. La seconde, ça concerne la composition des 27 livres du Nouveau Testament. À votre idée, est-ce qu'il y a des livres du Nouveau Testament qui ne parlent pas de la résurrection ? Oh, oh. Est-ce que les évangiles parlent de la résurrection? Ah, oui, je suis assez d'accord avec vous. Oui. Est-ce que les actes des apôtres parlent de la résurrection? Abondamment. Bon. Alors, quand on arrive à la série des lettres de Paul, est-ce qu'il parle de la résurrection? Oui, et plus souvent qu'à son tour. Et on va voir, il en parle à des moments d'attaque. C'est la première chose à dire. Bon. Quand on arrive à Pierre, la première de Pierre, place la résurrection au départ. La seconde de Pierre, bon, elle est dans une situation, je dirais, secondaire par rapport à la première et par rapport au Nouveau Testament. Secondaire, je veux dire, dans la mesure où elle est plus récente et où elle se situe à un autre niveau de la vie de l'Église. Et si on continue?
De toute façon, c'est Jésus ressuscité, mon ami.
Pas partout, ma sœur. Prenons la lettre de Jacques. Jacques ne parle pas de la résurrection. Il parle du Seigneur de gloire. Donc on peut supposer qu'il a lui, qu'il y a quelque chose. Mais si on prend la lettre de Jacques, il n'y a pas une affirmation nette, claire, précise de la résurrection de Jésus. On peut logiquement l'entendre comme sous-entendu, mais elle n'est pas proclamée. De même, dans les lettres de Jean, dans ces lettres, Jean parle de la résurrection de Jésus, dans votre souvenance? Non. c'est pas dit expressément.
La vie éternelle, quand même.
Non, il parle de la vie éternelle.
Il est apparu en lui.
Mais
c'est manifesté, nous avons cru.
Alors, on a l'impression avec Jean qu'on est à un autre niveau de la méditation sur le fait que la résurrection est comme acquise et assimilée. Alors qu'avec Paul, avec la première de Pierre, on a l'impression que les gens qui sont destinataires de ces lettres ont besoin d'entendre comme une nouveauté cette affirmation de la résurrection. Alors que pour les disciples de Jean, enfin moi je le perçois comme ça, c'est déjà quelque chose qu'ils ont intégré. Ils ne parlent pas tout à fait au même auditoire. Bon, pour ce qui est de l'Apocalypse de Jean, est-ce que la résurrection de Jésus apparaît? Bon, alors on va commencer par là. Si vous voulez bien prendre l'Apocalypse. Ben voilà. On va commencer par la fin, on va commencer par l'Apocalypse. Donc au chapitre 1er, vous devriez dire comme moi, faire vieux style, et ne dire pas psaume 1, chapitre 1. Mais dites psaume 1er, chapitre 1er, c'est plus joli. Enfin, si vous voulez faire vieux style, mais bon. Regardez dans le chapitre 1er, vous avez la salutation, la louange, l'annonce de la venue de Jésus, verset 7. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé. Donc le retour du Christ est annoncé avant la résurrection. Parce que la résurrection, ça ne va apparaître que lors de la vision de Jean à Patmos, au verset 17-18, il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort et me voici vivant, au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. »
T'as dit le verset 5 ?
Oui.
Et par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts.
Et le souverain des rois de la terre. Mais, oui, c'est une périphrase pour dire la résurrection. J'étais mort et voici, je suis vivant, le premier-né d'entre les morts. Avec ce corréla fait entre la résurrection et la venue. Nous nous séparons spontanément, il me semble, la résurrection de Jésus et la venue à la fin des temps. On a l'impression que pour les écrivains du Nouveau Testament, c'est le même ensemble. Ça peut être séparé dans le temps, dans l'espace-temps dans lequel nous vivons. Mais s'il est ressuscité, c'est parce qu'il vient. Nous, on pense qu'il est ressuscité, donc il est parti. Mais on affirme beaucoup plus fort la venue que le départ. Il me semble que c'est pour ça qu'on a fait de l'ascension une fête. On ne fête pas un départ. On fête l'attente du retour. Enfin, il me semble un renversement à faire de la façon dont nous intégrons ou pas, si nous faisons une place ou pas à l'annonce de la résurrection, de la venue de Jésus liée à sa résurrection. Si on remonte à la première de Pierre, dès le début, vous avez la salutation et au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » Et là, vous voyez que la résurrection est mise en lien avec l'espérance. De façon très nette. Et on y parle de régénération, Gabriel. Ce qui donc fait partie du vocabulaire de l'écriture. Alors, on peut l'entendre au niveau de la régénération. Ah, mais c'est pas le meilleur moyen d'entrer dans le... Donc, une résurrection qui procure une espérance. C'est pas résurrection d'un côté, espérance de l'autre. C'est résurrection qui, quelque part, fait bloc avec l'espérance. Nous, les latins, ou je ne sais pas si c'est parce qu'on est latin ou parce qu'on est occidentaux, mais en tout cas, on a tendance à avoir des notions. La notion de résurrection, la notion de ci, la notion de ça. Alors que la Bible essaye de nous faire rentrer dans un univers où tous ces éléments sont en relation les uns avec les autres. Il n'y a pas la résurrection d'un côté et l'espérance de l'autre. La résurrection, c'est l'espérance. Jésus est appelé dans, je ne sais plus où, dans Paul, je crois, Jésus-Christ, notre espérance. C'est Jésus lui-même qui a appelé espérance. Donc ce n'est pas l'espérance de ceci, cela, c'est lui-même qui est l'espérance. Donc c'est peut-être une autre façon de nous dire, peut-être que mes idées sur l'espérance, il faut que je les bouge un peu, elles ne sont pas des idées, elles sont à situer dans la relation avec le Christ. Ce n'est pas l'idée que j'ai de la résurrection, c'est ma rencontre avec le Christ qui fait que je peux accueillir ou ne pas accueillir qu'il soit ressuscité. Et s'il est ressuscité, ça veut dire qu'il vient. Et s'il est ressuscité, ça veut dire que je reçois une espérance. J'ai un texte de Luther encore sous les yeux. « Quand tu lis le Christ est ressuscité, ajoute aussitôt « Je suis ressuscité ». Et toi qui m'écoutes, tu es ressuscité avec lui. Car il faut que nous soyons rendus participants de sa résurrection. Ne pas apprendre cela, c'est ne rien apprendre du tout. Si vous avez appris ça, je n'ai plus qu'à me taire. C'est une grande chose de savoir, dit Luther, qu'après sa résurrection, le Christ n'est plus un homme mortel, mais le Seigneur de toutes choses, et qu'il tient tout en sa main, et que pourtant il dit « Mes frères, va dire à mes frères ». Ces deux mots contiennent le fruit de la résurrection. Il la résume en ces mots et nous la donne. Il est le Seigneur de gloire et il nous appelle ses frères. Et là, quand on passe à ce stade-là, qu'on reçoit la résurrection, on reçoit le double cadeau, de la Seigneurie de Jésus et du fait que, inimaginablement, il nous appelle ses frères et ses sœurs. À la fois le Tout-Puissant et à la fois celui qui se fait le plus proche de nous qu'on puisse. On n'a pas de mot plus proche pour dire la proximité que frère. Donc cette notion de la résurrection, c'est un mot que l'on voit refusé aujourd'hui. On l'a entendu encore ce matin. Il y avait un sondage dans le monde des religions sur les catholiques français qui disait que 58% des catholiques français, c'est un sondage de 2010, que 58% des catholiques français croyaient en la résurrection de Jésus et que 10% croyaient dans la résurrection des morts. Alors, il ne faut pas se lamenter, se catastropher là-dessus. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas les mots. Ils ne comprennent pas ce qu'on dit. Et au contraire, ils vont récuser ce qu'ils comprennent en disant « c'est pas possible, c'est pas ça ». Et en tout cas, une telle différence entre 58 et 10% montre qu'ils ne font pas de lien entre la résurrection de Jésus et leur propre résurrection. C'est pas du tout la même chose. Or, dans le Nouveau Testament, il y a un lien constant établi entre le Christ et nous, entre sa résurrection et notre résurrection. Comme lisait Agathe tout à l'heure, premier-né d'entre les morts. Or, quand on dit Jésus est ressuscité, Il y a pas mal de gens qui entendent qu'il est le seul à ressusciter. Parce qu'avant, il a toutes les vertus. Mais il n'est pas le seul ressuscité. Et pas parce qu'il est fils de Dieu et que nous, on n'est pas fils de Dieu comme il est fils de Dieu et gna gna, que nous ne sommes pas appelés à la résurrection. Et que cette résurrection, elle est à la fois immédiate et promise. Elle est à la fois maintenant et à venir. Mais dès qu'on entend la proclamation de la part d'un croyant que Christ est ressuscité, il nous est ouvert la possibilité de partager cette espérance. Mais cette espérance, elle est complètement folle. Parce qu'elle n'est pas dans la logique du monde. On est et on meurt, ça c'est normal. Mais ressuscité, on n'a jamais vu personne ressusciter. Voltaire, il disait quelque chose d'étrange, il disait « ressusciter, c'est naturel, c'est pas plus compliqué que de naître. » Alors, ça a l'air d'une blague, mais c'est assez profond. C'est-à-dire le mystère de la vie, de la naissance humaine, est au fond aussi grand que celui de la résurrection. Et pourtant, on rentre dans une autre dimension de l'existence. Naître et renaître. Le vocabulaire qui est employé à propos de la résurrection de Jésus est très varié dans le Nouveau Testament. C'est pas une notion qui est affirmée clairement de la même façon par tous les auteurs bibliques. Il s'est levé. Et même, il est sujet ou il est objet. Dieu l'a ressuscité des morts, dira Pierre devant Corneille et ses copains. Bon. Ou bien, il s'est levé. Donc, il y a toute un ensemble d'harmoniques qui se lèvent quand on regarde les différentes façons qu'ont les auteurs du Nouveau Testament de parler de cette chose incroyable, que celui qui était mort est vivant. Ça, c'est le premier élément, il me semble, important. Donc, les harmoniques, la complexité de cet ensemble qui n'est pas à essayer de tenir au même point qu'on tiendra « il est mort ». Il est mort, on peut rédiger un constat de décès. Ça, c'est de l'ordre, je dirais, de l'événement ordinaire, même si c'est le Christ qui meurt sur la croix. Mais il est ressuscité, c'est un événement unique dans l'histoire. Et c'est un événement propre au christianisme. Ce n'est pas une résurrection cyclique, comme dans la plupart des religions où on parle de résurrection. Le soleil qui se couche et qui se relève, symbole du renouveau. Bon, ou du renouveau du printemps. Bon. Le christianisme va affirmer la résurrection de Jésus dès le départ. Et c'est constitutif du christianisme. Et c'est là aussi où il se différencie du judaïsme. Vous vous rappelez qu'à l'époque de Jésus, les juifs étaient partagés par rapport à la résurrection des morts. Que les pharisiens, enfin une bonne partie des pharisiens, croyait en la résurrection des morts, en s'appuyant sur un certain nombre des textes de l'Ancien Testament que nous savons très bien aller chercher, alors que les Sadducéens, eux, rejetaient. Donc Jésus prend le parti des pharisiens en ce sens, il affirme la résurrection des morts. Et cette résurrection des morts, bon, qui fait partie donc de la croyance des pharisiens de son temps, elle est tellement incongrue, tellement mystérieuse qu'il va préparer ses disciples pendant longtemps à se trouver devant cette réalité. Il annonce sa mort, ce dont les disciples ne veulent pas, et il annonce sa résurrection, ce à quoi ils ne comprennent rien. Mais ce n'est pas la même chose de ne pas accepter que le maître meurt et se trouver devant le fait qu'il affirme qu'il ressuscitera. Mais c'est l'originalité du christianisme, parmi toutes les religions du monde, d'affirmer la résurrection de Jésus d'entre les morts. Il faut bien que nous soyons conscients de cette... On n'a pas de concurrent, si je puis dire. C'est une originalité absolue. Il y a un autre élément lié à la résurrection de Jésus qu'on trouve dans les écrivains du Nouveau Testament. Il est ressuscité des morts selon... Ah, ça c'est aussi... C'est pas... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne suffit pas que je croie dans mon cœur, ça y est, je me laisse convaincre. Il est ressuscité, c'est ma conviction intime la plus forte. Bon, et ça peut, ça existe, ça peut exister. Je suis convaincu que cette parole est vraie, mais il est ressuscité selon les Écritures. Ça veut dire que à ma conviction intime personnelle, il y a autre chose à prendre en compte. C'est le selon les Écritures. Ça veut dire qu'il faut nous accepter de nous enraciner dans l'Écriture, dans l'histoire du salut, telle que, à en croire les écrivains bibliques, Dieu l'a préparé depuis la fondation du monde. La résurrection du Christ n'arrive pas par hasard, elle arrive au terme d'un, ou dans le cadre d'un cheminement que Dieu a prévu pour l'homme. Avec un cheminement qui n'est pas facile à suivre. Et quand les chrétiens lisent l'Ancien Testament, ils ne le lisent pas comme les juifs le lisent. Dans le cadre du dialogue judéo-chrétien, on essaye de voir comment on peut lire ensemble l'Ancien Testament. Si vous avez fait cela, vous vous apercevez très rapidement que nous n'arrivons pas à lire ensemble l'Ancien Testament. Parce que pour les chrétiens, selon au témoignage du Nouveau Testament, l'Ancien Testament parle du Christ et ne parle que du Christ. Consultez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Et quand Jésus dit « elles rendent témoignage de moi », il veut dire « de moi, Jésus de Nazareth ». Il ne veut pas dire du Messie. Il est le Christ, il est le Messie. Mais il est Jésus de Nazareth, charpentier, etc. Donc la façon dont les chrétiens prennent l'Ancien Testament comme leur revenant de droit, ce n'est pas pour en dépouiller les Juifs, mais ça aboutit à une lecture, à une recherche dans ces livres qui est différente de celle qu'en font nos frères juifs. Il est ressuscité des morts selon les Écritures et la recherche du Christ, l'espérance envers le Christ, envers la venue du Christ, va s'inscrire dans la relation que nous avons et que nous sommes invités à avoir en consultant les Écritures. Consulter les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Méditer les Écritures, c'est chercher le Christ. Si je crois que je n'ai pas besoin des Écritures, parce que je sais qui est le Christ, je crois que je cours un grand danger. Le danger de me fabriquer mon Christ. Et on sait faire, hein. On va projeter sur Jésus toutes nos images. Et Dieu sait si on est inventif. Et on a besoin de la rencontre des Écritures pour rencontrer le Christ. Consulter les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Il me semble que c'est fondamental. Je reviens à un autre texte biblique. Est-ce que les Hébreux parlent de la résurrection de Jésus? Yes. La lettre aux Hébreux se situe par rapport à des auditeurs pour qui la résurrection de Jésus est quelque chose d'acquis, pour qui la connaissance des Écritures est quelque chose de réel. Et donc vont voyager à travers les Écritures pour y voir ce que nous, nous ne voyons peut-être plus maintenant, parce qu'on n'est pas familier du rituel du temple, ni des règlements sur le sacerdoce, mais muni de cette connaissance intime de la loi et de la conviction que le Christ est ressuscité, qu'il est vivant, l'auteur de la lettre aux Hébreux peut faire sa démonstration. Oh, tu peux prendre tous les Hébreux. Toute l'épître est dans ce sens.
Déjà, le premier, l'introduction, verset 1 à 4. Il s'est assis à la droite de la majesté.
Regardez, prenons le. Oui, c'est très bien. Prenons le préambule de l'épître, qui est splendide. C'est une seule phrase. Il faut bien prendre son souffle avant de la finir. Là, dans nos versions, on a des points et des points virgules, mais c'est une seule phrase. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses et c'est par lui qu'il a fait les mondes. Ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de son être soutient toute chose par sa parole puissante. Après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Le texte parle de la résurrection, mais il en parle de façon couverte. Il parle de la mort, mais il en parle de façon couverte. Il va plus loin que l'événement de la mort et de la résurrection. Il tire des conséquences de la mort et de la résurrection. Les auditeurs de la lettre aux Hébreux ont déjà derrière eux, en eux, la mort et la résurrection de Jésus. Sinon, ils n'y comprennent quick. Donc il y a un développement de la réflexion qui ne peut se faire que ultérieurement à la proclamation de la résurrection de Jésus. Ce qu'on trouve, par exemple, dans la première de Pierre. Quand il dit, au chapitre 1er, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts pour une espérance vivante. » La lettre de Pierre, c'est une encyclique, c'est-à-dire c'est une lettre pour tous. C'est une lettre catholique universelle. Elle n'a pas des destinataires précis. C'est l'expression de la conviction de Pierre. Et ce qu'il lui faut annoncer en premier et par-dessus tout, c'est la résurrection de Jésus qui nous régénère. C'est pas la résurrection de Jésus d'un côté et notre régénération de l'autre côté, c'est que l'effet de la résurrection, c'est qu'elle nous régénère. Et si nous adhérons à la résurrection, nous entrons dans notre régénération. Et là, le drame de notre modernité, c'est justement ça. C'est que nous historicisons la résurrection. Elle s'est passée il y a 2000 ans. Ce n'est pas un événement d'aujourd'hui. Elle n'est pas dans l'éternel, elle est uniquement dans le temporel. Et donc, les histoires de nous dire qu'on ressuscitera ou je ne sais pas quoi, ça n'a pas de, ce n'est pas compréhensible. Donc on va se trouver avec le monde d'aujourd'hui où l'espérance apparaît une notion obsolète. Une espérance, l'angoisse va monter de plus en plus parce qu'il semble qu'il n'y ait pas d'issue. Quand Jésus ressuscite, il est la promesse de son propre avenir. Mais pour nous, la promesse de la résurrection demeure en nous comme en suspens. Elle introduit une tension, alors ça c'est célèbre en théologie, entre un déjà là, ce qui est donné, manifesté dans la résurrection de Jésus, et un pas encore, car la promesse de la résurrection ouvre un avenir, mais qui est encore devant nous. Nous nous inscrivons dans la durée, dans le temps. C'est l'humanité, c'est le fait de l'humanité de s'inscrire dans l'espace, notre corps et dans le temps. La révélation qu'apporte Jésus et qui est au fondement de l'espérance chrétienne par sa résurrection ne peut pas recevoir une figure historique dans l'histoire qui s'écoule irréversiblement, mais elle doit prendre la tête du processus historique comme moteur de ce processus historique. Elle fait devenir historique la réalité de l'homme et du monde. Quand nous disons que nous sommes ressuscités avec le Christ, nous sommes en avance sur nous-mêmes. On prend de l'avance par rapport à ce que nous ressentons, par rapport à ce que nous vivons. L'événement de la promesse ne fait pas entrer l'homme encore dans une patrie de l'identité, mais l'introduit dans les tensions entre l'espérance, l'envoi et l'extériorisation, l'expression. Entrer dans l'histoire d'une promesse signifie ne pas accepter la réalité comme quelque chose de divinement stabilisé, mais comme une histoire. On n'est pas dans l'éternel retour, mais on est dans une histoire au sein de laquelle il va falloir avancer, il va falloir progresser. Il va falloir laisser le passé derrière soi et partir vers des horizons qu'on ne connaît pas. L'espérance, ce n'est pas l'espérance de ce qu'on connaît. C'est l'espérance de ce qu'on ne connaît pas. Sinon, ce n'est plus de l'espérance. Pensez au peuple hébreu dans le désert. Jésus lui dit qu'il marche vers la terre promise. Mais il ne sait pas où c'est, il ne sait pas quand est-ce qu'il va y arriver, s'il va y arriver, et comment ça va se passer. Et pourtant, l'espérance de la terre promise lui est offerte. Notre espérance de notre résurrection, c'est une promesse. On sait qui a fait la promesse, mais comment ça va se passer, par quel chemin il faudra passer, ça nous ne le savons pas. Mais par rapport au Dieu de l'Exode, par rapport à la pérégrination du peuple d'Israël, on a le changement entre l'ancienne et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance est partielle, elle concerne un peuple. La nouvelle alliance est universelle, elle concerne tous les peuples de la terre. Ce qui était inscrit dans une culture donnée est appelé à s'inscrire dans toutes les cultures humaines. Et peut-être c'est là où ça va être difficile aussi, pour proclamer l'évangile dans d'autres cultures que celle du bassin méditerranéen. Parce que c'est, on a nos mots à nous, mais comment nos mots à nous, nos mots de l'écriture, les mots dans lesquels on a été éduqué, mais comment est-ce qu'ils vont être reçus quand on va essayer de les proposer dans d'autres langues? Quelle traduction allons-nous trouver pour proposer cet héritage dans d'autres cultures. Mais nous sommes au niveau de la promesse de Jésus. S'il nous envoie en mission, c'est parce qu'il pense que nous pouvons faire des bons missionnaires. Et que donc cette gageure de communiquer l'espérance dans notre propre résurrection, on doit pouvoir le faire comprendre aux autres. Alors ça peut être les gens de l'autre bout de la planète, encore que actuellement, c'est plutôt eux qui reviennent vers nous pour nous évangéliser. Ça peut être les gens dans nos quartiers qui nous envoient bouler si on essaye de leur parler de la foi chrétienne. On est aujourd'hui dans dans cette réalité qu'on appelle la sécularisation. Et c'est bien ça qui revenait dans nos conversations, hein, en tout cas hier. Et j'aime bien cette expression qui dit que la sécularisation, c'est la continuation de la religion par d'autres moyens. Comme la guerre, selon Clausewitz, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. La sécularisation, à mon avis, il faut en avoir autant peur que de la religion. La religion, elle a un but, un objectif, qui n'est pas forcément mauvais. La sécularisation, elle a un objectif, là aussi, qui n'est pas nécessairement mauvais. Mais ce qui va différencier la religion de la sécularisation, c'est le langage. Ce n'est pas la réalité. La réalité, on va essayer de l'atteindre de façon différente, dans un langage qu'on croit renouvelé. Mais ça ne veut pas dire que ça oblige les chrétiens à ne pas avoir de relation avec ceux qui ont une pensée sécularisée. On le voit bien dans tous les marches ensemble qui se réalisent, et où on n'imagine pas que les chrétiens auraient seuls quelque chose à dire. Mais pour autant, si le monde est sécularisé et ne veut pas entendre parler de la résurrection de Jésus, ce n'est pas pour autant que cette proclamation nous échappe et qu'elle cesserait d'être constitutive de notre christianité. Être chrétien, il me semble, c'est adhérer à la résurrection du Christ, et c'est, je dirais, vivre de cette réalité, et si on en vit, c'est de la communiquer. Le drame aujourd'hui, c'est pas d'aujourd'hui, c'était déjà d'hier, c'est j'ai ma conviction et je la garde pour moi. Comme ça, je n'ai pas d'ennui. Mais l'annonce dans le cadre du Nouveau Testament, mais tout au long de l'Église, c'est que nous sommes faits pour proclamer cette résurrection, parce que c'est constitutif de la résurrection que de la proclamer, comme une joie, comme une promesse, comme un salut. S'il y a en nous le verrou qui nous empêche de dire « je crois que Jésus est ressuscité », et toi aussi tu peux croire, quelque part, nous n'adhérons pas à cette foi. Nous sommes encore dans une perception intellectuelle ou affective de la résurrection. Il me semble là aussi qu'il faut prendre comme un ensemble. Si je crois que Christ est ressuscité, alors je dis « Christ est ressuscité ». Et j'essaye de vivre, je dirais, dans cet éclairage, dans cette conviction qui fait que la vie ne peut pas être vaincue par la mort, qui fait que la résurrection des morts, ma propre résurrection des morts, n'est pas un problème. Elle est déjà réglée, si je puis dire, par le fait que le Christ est ressuscité. Et puisqu'il est ressuscité, mon affaire est réglée. Mon affaire est réglée parce que le Christ est venu nous faire grâce, et que nous vivons sous la grâce, et que la mort et la résurrection du Christ nous annoncent le pardon des péchés. Et que c'est plutôt chouette, non? Il y a de quoi nous transformer, de quoi nous réjouir, de savoir que nous sommes libérés. Donc, essayez de penser que la résurrection de Jésus, c'est constitutif du christianisme. Si on enlève la résurrection du Nouveau Testament, il ne reste pas grand-chose. Il reste des choses. Il reste une morale. Et aux périodes tièdes de l'histoire de l'Église, qu'est-ce qu'on prêche ? La morale. Mais ce n'est pas le rôle de l'Église. C'est un rôle secondaire. Bien sûr qu'il faut apprendre aux gamins à se moucher, à dire bonjour à la dame, etc. Et aux adultes de ne pas voler leur prochain. Mais ce n'est pas ça qui est constitutif de la foi chrétienne. Ce n'est pas ça qui va changer les cœurs. Ce n'est pas ça qui va consoler les malheureux. C'est le partage de cette conviction que Christ étant ressuscité d'entre les morts, notre vie en est transformée, notre vie en est bouleversée, notre vie est appelée à un changement en profondeur parce qu'elle reçoit une orientation. C'est rigolo parce que la résurrection de Jésus, elle est derrière nous dans le temps. Elle est il y a des siècles et des siècles. Et en même temps, elle est devant nous comme la direction, le but vers laquelle nous allons. Et nous sommes dans cette tension-là. Et on ne l'est pas individuellement, on l'est personnellement, assurément, mais on l'est ensemble. Moi, je crois que Christ a voulu l'Église. J'ai entendu suffisamment dire qu'il voulait annoncer, enfin, je ne sais pas ce qu'on dira à Michel, mais qu'il s'occupait que du royaume et que l'Église, il ne voulait pas en entendre parler, ça ne le concernait pas. Moi, je crois que le Christ a voulu l'Église. Il a voulu nous insérer dans une communion de frères. Et le seul fait qu'il nous appelle ses frères. Il faut bien que si on est ses frères, qu'on vive comme des frères. Donc c'est dans cette réalité de l'Église, mais d'une Église qui reste indissociable de la méditation des Écritures. Pour précisément rester dans l'axe de la résurrection de Jésus. Pour savoir qui est celui qui est ressuscité et vers qui nous allons. Seule la méditation confiante des Écritures nous permet de le comprendre. Et je crois qu'il ne faut pas opposer la méditation individuelle, personnelle des Écritures dans notre chambre avec la méditation commune. L'une appelle l'autre. Je trouve que c'est formidable quand, après avoir entendu proclamer l'Évangile à l'Église, avoir entendu méditer sur un texte ou l'autre, rentrer chez soi et prendre le temps de méditer ce qu'on a entendu, de façon à ce que ça rentre réellement en nous, et pas sitôt écouté, sitôt oublié. Il y a un approfondissement qui appelle la lecture commune et la lecture personnelle. Et je crois qu'il ne faut pas opposer l'un à l'autre. Il ne faut pas dire, puisque j'ai eu la lecture commune, je n'ai pas besoin de la lecture individuelle, ni inversement. Parce que je crois aussi que le ministère de service des frères passe par la méditation, l'explication de l'Écriture. Et que nous avons besoin d'être nourris par d'autres que nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas très compétents. Mais ça veut dire qu'on a besoin aussi que d'autres nous montrent, enfin, nous apportent un autre regard, une autre visée que celle que nous avons. Il y a un autre élément, mais là je ne saurais pas vous le ressortir, auquel j'avais pensé, par rapport à notre monde actuel, mais peut-être oui, Michel rattrapera ça, c'est la relation entre le fait que dans notre monde contemporain, la transcendance est à peu près exclue. Et que le christianisme est quand même, je dirais, l'affirmation d'une transcendance. Et que nous ne pouvons pas, je dirais, séculariser la foi au point qu'il n'y aurait plus de transcendance. Alors, je ne sais pas si Louis-Michel, quand tu parleras du royaume de Dieu, tu te situeras à ce niveau-là.
C'est un défi.
Très bien, alors je lance le défi. Parce qu'il me semble que c'est une des grandes difficultés d'aujourd'hui, l'évacuation de toute transcendance, y compris pour les chrétiens, qui auront tendance à voir leur fonction de chrétien d'abord dans leur action. Mais l'action, c'est une forme d'avoir. Nous sommes aussi appelés à être. Et il faut garder l'équilibre entre ce qu'on est et ce qu'on fait. On n'est pas à cause de ce qu'on fait, mais c'est parce qu'on est qu'on fait quelque chose. Or, beaucoup de gens vont penser que c'est parce qu'ils font qu'ils vont devenir quelqu'un. L'espérance, ce n'est pas quelque chose qui vient de nous. C'est quelque chose qui nous est donné. C'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu. L'espérance est un don de Dieu. L'amour est un don de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Donc ce sera à distinguer l'espérance chrétienne de l'espoir. comme on en parlait tout à l'heure avant le déjeuner, l'espoir humain, c'est une chose. L'espérance, comme don de Dieu, c'en est une autre. Et l'acceptation de la résurrection de Jésus, ça se situe aussi comme un don. Un don que nous n'avons qu'à recevoir. On n'a pas à se creuser les méninges pour savoir comment on pourrait recevoir ce don. Il nous est proposé. Nous avons simplement à l'accueillir. Mais pour accueillir, il faut savoir accepter. Est-ce que nous sommes toujours prêts à accueillir, à accepter quelque chose qui nous est donné? Est-ce que nous ne voulons pas plutôt acheter, acquérir, maîtriser, être convaincus par nos raisonnements? Alors que la résurrection et l'espérance de notre propre résurrection, c'est un don que Dieu nous fait pour nous faire entrer dans cette réalité qui va devenir pour nous un moteur. Voilà à peu près ce que, il me semble, je voulais vous dire. Probablement que c'était plus long sur mon topo. Mais on va peut-être s'arrêter là pour que nous puissions causer.
Nous avons le droit de rester un peu silencieux après de telles paroles. Mais en même temps, si, oui.
Ça a été très bien. De réfléchir à un temps.
Oui, ben d'accord. Okay, c'est ce que je dis. Nous avons le droit de demeurer un peu silencieux.
Maintenant, on ne réfléchit pas.
Si quelqu'un, d'un coup, a envie de partager sa propre réflexion, il le peut.
Ce n'est pas le moment de réfléchir, c'est le moment. Si Christ n'est pas ressuscité. Nous écoute.
Le premier, c'est que le bon larron, lui, Jésus lui dit, tu seras avec ce soir, tu seras avec moi.
Aujourd'hui.
Donc,
dans le pas. Oui, il dit aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis.
Donc, apparemment, lui, il n'est pas ressuscité. Bon, c'est ma question, je n'ai pas la réponse.
Qu'est-ce que c'est cette... Pourquoi apparemment? Pourquoi apparemment?
Non mais, c'est... non, mais lui n'est pas ressuscité.
Il est mort
sur la croix, mais il n'a pas eu le temps de ressusciter pour monter au ciel, je ne sais pas, avec son corps au moins.
Il a... Oui, alors... Et la deuxième question? Oui.
Non mais je ne comprends pas... la deuxième, justement, là, on parle de résurrection des corps, de nos corps, mais sous quelle forme? Finalement, voilà, souvent, ben, on meurt à 95 ans, on n'est pas bien beau. J'espère que.
Parlez pour vous, mon ami.
C'est ma question, sous quelle forme ressuscite-t-on? Comment? C'est une question, hein? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse.
Ouais. Sans réfléchir plus, je dirais, par rapport au bon larron, il reçoit une parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, il part avec cette parole. Et nous savons qu'il est parti avec cette parole. où cette parole est dite par le vivant, et elle est vivante, et elle est vraie, et cet homme qui meurt est vivant, au sens où Jésus dit « celui qui vit et qui croit en moi vivra même s'il est mort ». Donc on change d'espace, on rentre ailleurs. Bon. Et pour moi, c'est comme ça que je l'entends. Parce qu'il adhère avec confiance à cette parole que Jésus lui dit. Et c'est son viatique, c'est sa provision pour la route. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Alors, qu'est-ce que c'est que le paradis, comment c'est, etc. C'est un mot très rare dans l'écriture. Mais en tout cas, c'est un lieu qu'on imagine de paix. Avec moi. Être avec le Christ. En matière de christianisme, on ne peut pas dire plus que d'être avec le Christ. Donc c'est un peu le sommet de l'espérance chrétienne de dire être avec le Christ. Peut-être qu'il aurait préféré être avec quelqu'un d'autre. Non, c'est pas ça. Mais c'est que pour exprimer la foi, qu'est-ce que c'est le sommet du bonheur? Être avec ce qu'on aime sur cette terre. Être avec le Christ sur cette terre et toujours. Et notre relation, notre sentiment de la présence du Christ à côté de nous, c'est quelque chose de fabuleux. Les uns l'ont, les autres ne l'ont pas. Mais lui, il est parti avec une parole qu'il avait entendue du Christ et que bien d'autres après lui ont pu entendre. Souviens-toi de moi. Et dire au Christ quand on est malade et quand on est mourant, dire « souviens-toi de moi », ça induit la réponse de Jésus. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Vous voyez, c'est simplement le fait qu'on demande. Puisqu'on demande, on va recevoir. On va pas recevoir un coup de bâton. On va recevoir l'accueil que le Christ donne au bon larron. Moi, c'est comme ça que je le reçois. Alors, quant à savoir les modalités de la résurrection, ça c'est un grand sujet de débat au cours des âges, parce que les hommes sont toujours travaillés par le démon de la curiosité, et ils essayent d'imaginer à leur mesure. Alors est-ce que je vais ressusciter avec des bouclettes en belle jeune fille ou en affreux vieillard? Bon, ça c'est comme d'imaginer le paradis. Le paradis qu'on voit sur les Bibles des témoins de Jéhovah. C'est une espèce de petit décor de fleurettes et de... C'est charmant. Bon, c'est kitsch, c'est tout ce qu'on veut, parce que c'est au prorata de l'imaginaire de ceux qui ont fait ces dessins. Mais on peut avoir une toute autre idée du paradis. Moi, qui adore les livres, j'ai toujours regretté quand j'ai pensé qu'un jour qu'au paradis, il n'y aurait pas de bibliothèque. J'avoue, évidemment que c'est rigolo parce que se soucier des bibliothèques, ça va dans cette vie parce qu'on aime les bouquins, mais le bonheur, c'est quand même pas limité à ce qui nous paraît précieux dans la perception qu'on a de cette vie.
Alors, une question, je pense qu'elle est subsidiaire, mais je me l'étais posé un petit peu avant de m'inscrire ici. Est-ce que la foi chrétienne est nécessaire au salut? Voilà, l'espérance chrétienne. Est-elle nécessaire au salut?
Tu veux dire que celui qui meurt parfaitement désespéré n'a pas accès au salut? Alors, on pense à deux exemples fameux dans l'Évangile. C'est les deux repentirs. Le repentir de Pierre et le repentir de Judas. Et il faut prendre les deux textes, des larmes amères de Pierre, quand Jésus le regarde, et de la fin de Judas. On a l'impression qu'il y a deux types de repentirs. Et je ne peux pas régler ça comme ça en trois mots, mais il me semble qu'il faut pouvoir comparer la nature du repentir de Pierre et la nature du repentir de Judas. En tout cas, c'est la lecture que nous propose le Nouveau Testament en mettant en parallèle les deux disciples. Ils n'ont pas le même sort. Donc, pourquoi ? Le repentir de Pierre nous est donné en exemple, celui de, en exemple à suivre, celui de Judas nous est donné en exemple à ne pas suivre. Mais pour le reste, moi j'ai envie de dire, t'occupe. On n'est pas à la place de Dieu pour déterminer, toi tu rentres, toi tu sors, comme pour les boîtes de nuit. Hein. Bon. Mais il me semble qu'il faut pouvoir méditer les différentes formes de désespoir. Pour essayer d'entrer dans la... Non pas dans le cœur de Dieu, mais dans les limites de l'humain. Dieu est plus grand que notre cœur. Donc, c'est pas à nous de nous mettre à la place de Dieu pour décider ceci, cela. Mais en même temps, il faut méditer la parole parce que Dieu nous parle à travers ces situations humaines. Et il y a des chemins qui nous ouvrent et d'autres qui nous recommandent d'éviter, même dans le désespoir.